This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacia. France Inter, le 18-20.
Le 18-20, ce soir à Budapest, en Hongrie, fronde anti-JO et naissance surtout d'un nouveau parti politique d'opposition. Nous serons également aux États-Unis où Bill Gates, lui, et ça rappelle quelqu'un, veut taxer les robots. 18h55, l'édito d'Arnaud Leparmentier sur les fake truths, ces fausses vérités ou vraies croyances qui polluent le débat public. Mais d'abord, elle souffre de maladies chroniques, alors soignons-la, la démocratie.
Michaël Thébault. Un jour dans le monde.
On l'a dit et redit de la démocratie américaine récemment, on l'a dit de la Hongrie et de la Pologne, on le dit aussi parfois de la France, la démocratie serait en crise. Mais plus qu'un accident ou qu'un événement passager, ne faut-il pas plutôt parler d'un état permanent, comme un patient atteint de maladies chroniques qu'on appellera cynisme, racisme, populisme, maladie sans doute incurable, mais avec lesquelles on peut tout de même vivre et même, pourquoi pas progresser. Eh bien, on en parle ce soir avec un thérapeute politique de haut vol, le philosophe Frédéric Worms. Bonsoir.
Bonsoir, Michaël Thébault.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur à l'École normale supérieure, membre du comité consultatif d'éthique, et vous signez donc Les maladies chroniques de la démocratie, un essai dans lequel vous filez la métaphore médicale. Alors allons-y, de quoi nos démocraties sont-elles malades, Frédéric Worms ?
D'abord, parler de maladies chroniques, on pourrait croire que c'est pessimiste. C'est-à-dire, c'est dire que les maladies sont tout le temps là, les maladies chroniques, c'est des maladies qu'on ne peut pas guérir et qu'il faut tout le temps soigner. Et donc on pourrait préférer l'image d'une maladie aiguë. La maladie aiguë, c'est une crise qui arrive à un moment donné, qu'on soigne et qui s'arrête. Et la maladie chronique, ça pourrait sembler plus pessimiste. Je pense qu'en fait, c'est à la fois plus réaliste et en un sens plus optimiste, mais d'un optimisme concret, parce qu'il y a des problèmes inhérents à la démocratie qui demandent un effort et contre lesquels il y a des résistances qui en ont effectivement racisme, ultralibéralisme, populisme, à mon avis. Et ces résistances sont chroniques. Et donc, il faut deux luttes. À mon avis, il faut une lutte contre le chronique, une lutte chronique contre le chronique, tous les matins, une petite dose contre le fascisme, contre le racisme, qui surgissent y compris en nous, dans nos subjectivités, pour des raisons très profondes, humaines en quelque sorte. Et donc cette lutte chronique contre le chronique, chaque matin, comme un diabétique prend son médicament, et puis la crise ne disparaît pas, mais elle change de sens, c'est pas un événement qui survient et qui va s'arrêter, mais c'est un pic dans une maladie chronique. Et le but du traitement, tous les médecins le savent, c'est de maintenir le chronique en dessous du pic où il devient mortel. C'est pour ça qu'on peut vivre avec, à condition de lutter contre lui.
On va s'arrêter en détail, évidemment, sur les traitements, ouais. Mais parmi ces maladies chroniques, et allez-y, prenez le temps de nous les expliquer, nous les détailler, laquelle, à votre avis, est la plus dangereuse ou la plus contagieuse, même si ce n'est pas un terme que vous employez.
Alors, à mon avis, la plus dangereuse, celle qui définit vraiment la résistance à la démocratie, c'est le déni des violences intérieures à une société. C'est l'idée que une société est faite de divisions et de conflits. Or, on a tous envie, au fond, de se penser soi-même comme entièrement bon contre des autres qui seraient dangereux à l'extérieur. Et c'est vrai aussi, d'ailleurs, de nos subjectivités individuelles, dans nos familles, par exemple. L'amour, on a envie de penser qu'il est entièrement bon, mais on constate quand même qu'il est toujours aussi une lutte contre les conflits intérieurs. Et c'est très dur d'admettre ces conflits intérieurs. C'est d'autant plus dur quand on est aussi agressé de l'extérieur. Quand il y a, par exemple, des attentats, quand il y a des catastrophes naturelles, on a envie de se défendre d'abord contre l'extérieur, et c'est très dur d'admettre qu'il y a des divisions. Or, la démocratie, ça consiste à admettre le désaccord, admettre la division, construire un cadre qui fait que on peut discuter ces désaccords, les canaliser et même être plus fort en admettant la division, en luttant contre les risques de guerre civile qu'elle peut porter en elle, plus fort en admettant et en canalisant ces conflits par la parole qu'en les déniant et en disant qu'on est, par exemple, un peuple uni contre une menace extérieure, un peuple uniforme avec une identité unique, comme si tout le monde était d'accord en France, par exemple, et que c'était l'étranger qui était une menace, alors que en réalité, il peut y avoir des menaces extérieures. Il faut aussi se défendre contre les menaces extérieures. Mais c'est très difficile d'admettre qu'on a aussi des conflits intérieurs. Et construire la démocratie, c'est construire le cadre commun qui permet de vivre le désaccord et de construire la communauté.
Si on se raccroche à l'actualité, je l'évoquais brièvement en préambule, qu'est-ce que nous apprend cette montée des populismes qu'on voit ici en Europe, aux États-Unis évidemment ? Est-ce que ça nous apprend que nos démocraties sont fragiles, sont faibles, ou alors qu'on s'est trompé dans notre conception même de la démocratie?
Ben, moi, je crois que la définition du populisme, quand il devient dangereux, justement, quand il devient vraiment nocif et peut-être mortel, c'est justement l'idée, parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a effectivement des problèmes intérieurs et extérieurs, c'est l'idée justement qu'il y a une essence du peuple, qu'il soit américain, comme dans le discours de Trump, ou français, comme dans certains discours ultranationalistes, qui est à défendre contre des menaces seulement étrangères. Et à ce moment-là, la menace devient extérieure, uniquement extérieure. On la projette à l'extérieur, de telle sorte que même que ceux qui ne sont pas d'accord, à l'intérieur, deviennent des traîtres. Forcément. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas un adversaire, vous êtes un ennemi.
Mais quand la menace dénoncée est à l'intérieur, quand par exemple, on le voit ici en France, mais on l'a vu aussi aux États-Unis ou même pendant la campagne du Brexit, on dénonce par exemple les élites.
Ben, je crois que les élites, il y a deux choses. Il y a un risque chronique à la démocratie, effectivement. Le risque chronique de la démocratie, c'est que c'est normalement une institution qui est au service du commun, au service de l'intérêt général. On a raison de dire que c'est le gouvernement du peuple par lui-même. Et il y a un risque d'appropriation par des intérêts particuliers, comme le disaient les philosophes au XVIIIe siècle, qui opposaient l'intérêt général et des intérêts particuliers, que ce soit des lobbies ou des individus qui se servent de l'intérêt général pour défendre leurs intérêts particuliers. Donc ça, c'est un risque. Mais c'est un risque de certains individus, même dans la supposée élite. Il peut y avoir des députés qui font ceci ou cela, mais pas les députés. Il peut y avoir, comme il peut y avoir des médecins qui font des fautes médicales, mais pas les médecins. Le problème, c'est que quand on unifie, on dit l'élite, ou même les élites au singulier, mais sans dire qui et comment et pourquoi et à partir de quand, on unifie et donc on met de nouveau un ennemi extérieur. Et donc il y a le peuple qui est entièrement bon et l'élite ou les élites qui sont entièrement méchantes ou mauvaises. Alors qu'en réalité, il y a évidemment dans le peuple des désaccords, il y a des Français en désaccord, parfois des Français qui commettent des crimes contre d'autres, ou des injustices contre d'autres, y compris économiques, et donc il faut une justice interne. Et puis dans les supposées élites, il y a des différences, et il faut faire des différences, il faut faire un travail critique, accuser en bloc, construire des blocs identitaires contre des blocs d'élite, c'est toujours promouvoir la guerre.
Alors comment expliquez-vous que ces discours et ces globalisations mensongères aient finalement du crédit? Pourquoi ça marche?
Ça marche parce que la démocratie, admettre des divisions intérieures, admettre qu'on ne peut pas les éliminer, qu'il faut vivre avec sa part de violence interne et la part de violence de l'autre, qu'on doit construire un cadre. C'est difficile, c'est un peu contre nature. Et quand il y a en plus des situations des problèmes objectifs qui viennent menacer notre économie avec la mondialisation...
Crise économique ou terrorisme, voilà, ça c'est concret, c'est objectif.
Crise écologique, terrorisme en effet extérieur qui vient agresser la démocratie sur ce terrain, qui vient essayer de faire de nous un bloc, précisément. Eh bien, ça devient très difficile de lutter contre ces penchants qui, en chacun de nous, ne vont pas vers la démocratie, parce qu'il faut aussi sauver sa vie, parce que peut-être d'abord il faut reconstituer une unité contre cette menace extérieure. Or, c'est un leurre, parce que si on oublie les risques intérieurs pour lutter seulement contre les agressions extérieures, eh bien, on va perdre sur les deux terrains. C'est comme quand Churchill disait, vous voulez l'injustice pour éviter la guerre, vous aurez l'injustice et la guerre. Eh bien, je crois vraiment que quand on renonce à régler ses problèmes internes pour le fantasme du problème externe, on a les deux. Et on aggrave le terrorisme par l'injustice. Et en plus, on masque des injustices.
Vous dites, Frédéric Worms, que Donald Trump incarne le cynisme renforcé par Internet et le racisme nourri par le terrorisme. Expliquez-nous.
Je crois que Trump, c'est le sommet de ce que je viens d'essayer de décrire. C'est même la synthèse de ce que je viens d'essayer de décrire. D'un côté, il parle au nom de l'Amérique, des Américains, unifier l'Amérique contre ses traîtres internes et contre ses menaces externes, qui sont d'ailleurs elles aussi unifiées. Comme si, par exemple, une religion ou une identité religieuse, mettons l'islam, pouvait être intrinsèquement dangereuse, ce qui est une absurdité, puisque partout il y a des divisions. Partout, il y a des gens qui sont en effet potentiellement dangereux et des gens qui ne le sont pas. Et ça traverse, on le sait bien, chaque communauté. Donc, il essentialise d'un côté et d'un autre côté, il divise. et même il surdivise, puisqu'il dit « n'ayez pas confiance, ce sont des ennemis ». Donc d'un côté, il dit aux Américains « il y a l'Amérique », et d'un autre côté, il dit aux Américains « il y a les méchants Américains ». C'est quand même paradoxal. D'un côté, il dit « nous sommes tous Américains », d'un autre côté, il dit « il promeut un ultralibéralisme où chacun est en ultra-concurrence avec les autres ». Comment est-ce que quelqu'un qui a été dans la télé-réalité, qui a exclu ceux qu'il pensait faibles, alors qu'il faut les soutenir, bien entendu, et qui a passé sa vie à le faire, peut en même temps revendiquer l'unité d'un peuple sans tâche et dire « je suis avec vous tous », alors qu'il n'a cessé d'exclure. Je crois que l'un des gestes symboliques, c'est très fort. Alors, on peut être contre les mesures qu'il y avait dans le Obamacare, hein, par exemple, mais je crois qu'un président comme Obama, qui a associé son nom, qui est même devenu un nom commun avec un mot comme le care, c'est-à-dire le soutien plutôt des faibles, plutôt admettre qu'il y a des problèmes et qu'il faut les aider, soutenir ceux qui ont des problèmes. Donc un président qui a laissé ça en héritage, c'est déjà très fort, même s'il s'est trompé dans la réforme concrètement. À vrai dire, je ne suis pas spécialiste, mais il peut y avoir des limites. Inversement, un président dont le premier geste, c'est le tout premier décret qu'il a signé, c'est d'abolir l'Obamacare. Moi, j'entends qu'il abolit d'abord le care. Il dit qu'il abolit Obama, mais ce qu'il abolit, c'est le care, c'est-à-dire en américain, en anglais, le terme qui définit le soin. Le soin, c'est pas les bisounours, comme on dit souvent. Au contraire, le soin, c'est la véritable reconnaissance de la dureté de la vie, c'est-à-dire reconnaître qu'il y a des guerres, faut lutter contre. Il s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de terrorisme. Il s'agit de dire qu'il y a les terrorismes et en même temps des injustices internes. Le terrorisme n'abolit pas la pauvreté. Et dire qu'on va abolir l'une à partir de l'autre, c'est le contraire. C'est en multipliant la justice interne et partout qu'on n'abolira jamais la violence, mais qu'on pourra la contenir. Pour moi, le traitement de l'Uchronique, comme le disent les médecins, c'est pas de l'éliminer, mais c'est de le contenir en deçà du seuil où il devient mortel.
Pour rester sur Trump, mais à la rigueur, on pourrait l'appliquer à bien d'autres, c'est une maladie de la démocratie, la démagogie.
Oui, parce que, prenons un exemple, les théories du complot. En réalité, elles viennent d'une tendance profondément démocratique, qui est la tendance à critiquer. Et la critique, puisque la démocratie, c'est d'abord d'admettre qu'il y a des problèmes, est nécessaire à la démocratie. Il faut, et vous le faites en tant que journaliste, on essaye aussi en tant que professeur de donner des outils à l'esprit critique. Donc il faut critiquer. On ne peut pas prendre pour argent comptant ce que dit un gouvernant, ce que dit un chef d'entreprise, ce que dit même parfois un professeur, même si pourtant les institutions sont faites pour aussi légitimer un certain type de discours. Bon. Donc il faut de l'esprit critique. Mais une perversion de l'esprit critique, c'est quand il devient soupçon. Quand il devient accusation. Et que d'ailleurs, on ne critique plus, par exemple, le professeur pour son... Par exemple, parce qu'il s'est trompé, mais juste parce qu'il est professeur. On soupçonne la personne et on soupçonne l'institution.
Et alors, une remise en cause de facto.
Voilà.
Et
alors que la critique démocratique, scientifique, on sait qu'un savant, c'est quelqu'un qui a l'esprit critique. Normalement, il vient contester. Mais un soupçonneur, un complotiste, c'est quelqu'un qui soupçonne la personne et au lieu de contester l'énoncé, il conteste la personne qui l'énonce. Je dis parfois en plaisantant que Trump pourrait dire 2 et 2 font 5. Et que, évidemment, tous les professeurs de mathématiques diraient, mais non, ça fait 4. Et lui, il dirait, vous voyez bien. Ils sont tous d'accord, parce qu'ils ne soupçonnent pas, ils ne critiquent pas l'énoncé, ils pourraient essayer de montrer que 2 et 2 ne font pas 4, s'il était fort en mathématiques, mais ils soupçonnent l'énonciateur, le professeur, l'institution, et là ils sapent le fondement même de la confiance démocratique.
Il y a une trentaine d'années, écrivez-vous, la démocratie semblait acquise dans les faits et les idées, et aujourd'hui même en France, l'état de droit est remis en cause. Alors est-ce que la principale erreur, Frédéric Worms, ça a été peut-être de croire que la démocratie allait de soi, que c'était naturel?
Effectivement, je pense qu'on est allé dans notre génération, disons, voilà, les gens qui ont connu la chute du mur de Berlin en 1989, qui connaissent aujourd'hui l'élection de Trump et les menaces sur les démocraties, on est allé d'un extrême à l'autre et les deux sont dangereux. On a cru que la démocratie était acquise, maintenant on croit qu'elle est finie, dans l'autre sens du terme. Moi, ma thèse, c'est qu'elle n'est jamais achevée, jamais réalisée, parce qu'il y a toujours ces problèmes chroniques qui définissent aussi, du coup, des vrais progrès possibles. Puisqu'il y a du chronique, on peut identifier le progrès. On sait pourquoi ça va mal, donc on sait pourquoi ça peut aller mieux. Donc elle n'est jamais réalisée entièrement, mais on peut la faire progresser. Donc c'était une erreur de dire qu'elle était gagnée, mais ça n'était pas une erreur de croire qu'on pouvait y progresser. Maintenant, on est passé à l'erreur inverse. Comme il y a des problèmes, on croit que c'est fini, que c'est désespéré, que le malade est en quelque sorte en soins palliatifs. J'allais dire d'une manière, d'ailleurs, les soins palliatifs sont quelque chose de très important, mais c'est quand même quand le verdict fatal est prononcé, quand on sait que la mort est inévitable. La mort n'est pas inévitable. Et donc, c'est une erreur d'avoir cru que c'était fini au sens de réussi. C'est maintenant une erreur de croire que c'est fini au sens de foutu, si vous me permettez l'expression. La démocratie, au contraire, comporte des critères pour définir quand ça va moins bien et quand ça doit aller mieux.
Alors justement, là on a fait grosso modo le diagnostic, docteur Worms, on passe à l'ordonnance, ça soigne comment tout ça ?
Comme je disais, je crois que ça se soigne de deux façons qui correspondent grosso modo aussi aux deux parties du livre. D'une part, il faut le bon diagnostic. On sait bien qu'un médecin, c'est quand même aussi... Moi, je ne suis pas médecin, hein, même si c'est un compliment, je le prends comme
un compliment.
Je regrette parfois d'avoir fait seulement de la philosophie, je dirais. Comme certains philosophes, il faudrait aussi avoir fait de la médecine. Mais il faut, je pense, deux médecines, deux traitements, et la philosophie peut quand même en être un. Le premier, c'est le bon diagnostic, et du coup aussi, comprendre que puisque ces maux sont chroniques, il faut vraiment y résister tous les matins. Il faut résister tous les matins contre la tentation de ces discours démagogiques, la tentation de ces unifications faciles, et surtout quand il y a des événements dangereux. Donc ça, c'est, je dirais, le traitement.
Mais c'est à nous, citoyens, de résister chaque matin, comme vous dites, ou c'est d'abord aux hommes et femmes politiques de résister ?
Alors les hommes,
elle est où, cette résistance ?
Les hommes et les femmes politiques ont effectivement une responsabilité très grande. Mais moi, je crois beaucoup aux institutions. On personnalise beaucoup, beaucoup trop le système politique, c'est justement ce qu'on appelle le système politique. Et c'est vrai que quand un homme politique fait un discours ou qu'il ment, il est lui-même tenté parfois par certains gestes, il peut pas trahir, mais disons dépasser certaines limites. Et là, il faut des institutions. Il y a eu des affaires, par exemple, de corruption, même en France. On a créé des institutions qui sont ce que j'appelle les institutions critiques. C'est le premier, un traitement de fond. Et il faut le souligner, c'est très important. Je pense que l'institution qui permet de vérifier s'il y a eu conflit d'intérêts ou pas, je vais prendre un exemple là aussi très précis. On a failli perdre le système de santé français pour des raisons de soupçons. Au moment, vous vous en souvenez peut-être, de la vache folle, au moment du sang contaminé, il y avait eu en effet des actes criminels, en quelque sorte, et on pouvait dire, mais voilà, tout le système de la transfusion sanguine est imprégné du soupçon. C'était... Qu'est-ce qui a traité le système de soins ? Qu'est-ce qui a sauvé le système de soins français ? Eh bien, c'est des institutions critiques qui séparent les conflits d'intérêts, où on a maintenant de nouveau confiance, parce qu'il y a des agences indépendantes qui examinent les processus de traitement du sang, etc. On peut prendre un autre exemple contemporain. Les Français aujourd'hui, comme beaucoup d'opinions publiques, ont peur de se faire vacciner. C'est quand même inimaginable. Et donc, d'une campagne démagogique... Et ça veut dire aussi que d'ailleurs, que non seulement la médecine n'est pas une métaphore, la médecine a besoin de la démocratie, a besoin de la confiance publique. Bon, les Français ont peur de se faire vacciner. Eh bien, mettons en place de nouveau des agences indépendantes. Ne faisons pas confiance. Les hommes politiques et les femmes sont des personnes qui ont besoin des institutions. Et je crois qu'au lieu parfois d'accuser le système comme ils le font, il faut au contraire qu'ils nous disent... dans le système, quelles sont les institutions qui prémunissent contre le risque du système. Donc le premier traitement, il est vraiment institutionnel. Le quotidien, c'est l'institution. Et puis dans la crise, il faut que les citoyens se mobilisent, il faut qu'ils inventent de nouvelles façons de critiquer, il faut distinguer la critique et le soupçon, il faut lutter contre le discours démagogique par une critique à la fois calme et en même temps parfois militante. Et aujourd'hui, je crois qu'effectivement, quand même, au fur et à mesure que j'écrivais le livre, c'était assez drôle. Au début, j'étais plus dans le chronique, et puis aujourd'hui, le pic... menace.
Il y a une idée que j'aime énormément dans votre livre, et vous l'avez déjà esquissé, hein, c'est la démocratie est aussi le contrepoison des poisons qu'elle sécrète. Mais ça, il faudra aller le lire et le comprendre. Dans votre dernier essai, Frédéric Worms, particulièrement réussi, les maladies chroniques de la démocratie, c'est aux éditions des Clés de Brouwer. Merci beaucoup.
Merci
Frédéric
beaucoup
Worms.
À vous, Michael Thébault.
Dans un instant, direction la Hongrie, on va reparler de populisme, mais d'abord Sinkane. Houhou.
It's always been this way. It's always been alright.
Kuhu, Sin Kane sur France Inter.
20 horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde avec vous, Olivier Poujade, bonsoir.
Bonsoir, Michael.
Alors, je dirais essentiellement l'Europe hein, ce soir, Olivier, avec tout d'abord les inquiétudes d'Amnesty International.
Oui, Amnesty s'inquiète, Michael, de la montée des populismes sur notre continent. De tels niveaux de haine n'avaient pas été constatés depuis les années 30, prévient même l'ONG dans son rapport annuel sur l'état du monde présenté aujourd'hui. Les paroles xénophobes sont désormais installées. L'Europe entre aujourd'hui dans la phase numéro 2. Deux de l'extrémisme, celle où les décisions politiques concrétisent ces discours. C'est cette nouveauté qui préoccupe aujourd'hui le directeur de recherche Europe d'Amnesty, John Dalhuysen. Il est interrogé par Claude Guibal.
La politique de la diabolisation, des discours déshumanisants, il n'y a rien de nouveau là-dedans en Europe, depuis des décennies même. Ce qu'on a vu l'année dernière, c'est deux choses. C'est le mouvement vers le centre de ces discours, son adoption par des partis centristes, et l'adoption de mesures qui ont des conséquences directes sur les droits de l'homme et les individus. On le voit dans le domaine de l'immigration, on bafoue les droits à l'asile, on le voit dans le domaine des mesures contre le terrorisme, une politique d'amalgame entre immigrants, terroristes, menaces à sécurité. On évite de parler des questions réelles qui provoquent les inquiétudes, souvent légitimes d'ailleurs, sur l'emploi, sur la sécurité, sur l'identité nationale.
Est-ce que ça a un sens particulier de lancer cette année ce rapport en France à la veille d'échéances électorales lourdes ?
On a eu quand même 20 ans, une génération gâtée. Une génération qui n'a jamais pensé qu'il était nécessaire parler des droits de l'homme chez nous. On parlait droits de l'homme, même Amnesty International, on le faisait pour les autres. Et maintenant, il faut le faire chez nous, et le défi est là.
L'Europe respecte-t-elle les droits de l'homme dans son rapport annuel ? Amnesty International estime qu'il faut de nouveau s'en préoccuper.
Et direction la Hongrie, l'un des pays où l'on s'inquiète hein, justement de ces dérives populistes de la classe politique. Et pour les contester, un mouvement citoyen a décidé de s'opposer à la candidature de Budapest aux Jeux Olympiques 2024.
Ils ne veulent pas de ces Jeux et tentent de faire barrage à leur propre capitale. Avec Paris et Los Angeles, Budapest fait partie des trois derniers finalistes. Mais sa candidature pourrait donc être compromise. Bonsoir Florence Labruyère.
Bonsoir Olivier.
Correspondante de Radio France à Budapest, Florence, ce mouvement de jeunes Hongrois a obtenu suffisamment de signatures pour qu'un référendum soit organisé sur cette question.
Oui, ce mouvement a rassemblé 266 000 signatures, soit deux fois plus qu'il n'en faut pour un référendum. C'est 20% des électeurs de Budapest. Quand le chiffre est tombé, c'était l'euphorie au quartier général du mouvement.
Et comment expliquer cette fièvre anti-olympique à Budapest ?
Eh bien, les Hongrois adorent le sport, mais ils ont peur que ces jeux coûtent trop cher et que l'argent serve surtout à enrichir les politiciens au pouvoir. J'ai demandé à un Budapestois, qui a tenu à rester anonyme, s'il ne serait pas fier, malgré tout, que Budapest accueille les jeux. Et voilà ce qu'il a répondu.
La fierté, c'est beau, mais on ne peut pas en vivre. En Hongrie, beaucoup de gens vivent dans la pauvreté. À quoi ça leur servira d'être fiers s'ils n'ont pas d'argent pour se chauffer ni pour remplir le frigo ?
Et qui compose ce mouvement, Florence ?
Ils sont 150 étudiants et jeunes actifs. Ils ont entre 24 et 30 ans. Et leur mouvement s'appelle Momentum. Ça signifie élan. Alors, au-delà du référendum sur les Jeux, ils ont un projet politique, comme l'explique leur président, András Fekete-Győr, un juriste de 27 ans.
Quand on a créé Momentum en 2015, on avait déjà l'idée de fonder un parti politique. Le thème des Jeux Olympiques, c'était un outil pour faire bouger les choses. Et on a réussi à mobiliser beaucoup de gens. Vous n'avez pas idée à quel point les Hongrois sont apathiques et se désintéressent de la politique, parce qu'ils n'ont plus confiance.
Et Florence, c'est très clair, ce mouvement s'oppose ouvertement à Viktor Orban, le premier ministre de la droite nationaliste.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ils vont fonder un parti politique pour pouvoir se présenter aux législatives dans un an. Alors tous ces jeunes qui ont travaillé à l'étranger et qui parlent plusieurs langues veulent un changement de gouvernement. Ce sont des pro-européens qui souhaitent restaurer la démocratie en Hongrie, une démocratie mise à mal par le gouvernement de Viktor Orban, comme le rappelle Anna Oros. Elle est membre de Momentum, elle a 27 ans.
Le gouvernement harcèle les ONG avec des perquisitions, des contrôles fiscaux. Tous les jours, on apprend que tel ou tel média a été racheté par un entrepreneur proche du gouvernement. En politique étrangère, ce qui ne nous plaît pas, c'est qu'on se rapproche de la Russie, de la Turquie ou de l'Azerbaïdjan. Voilà pourquoi on est inquiet sur l'état de la démocratie dans notre pays.
Et vous voulez vous présenter comme député aux prochaines élections ?
Vous savez, si on habitait en Norvège ou au Danemark, on ne serait sans doute pas dans un mouvement politique. Mais nous, on se sent responsable de l'avenir du pays. Moi, je ne pourrais pas me regarder en face dans le miroir si je n'essayais pas de faire quelque chose. Je ne pourrais pas expliquer ça à mes enfants.
Alors Anna, qu'on vient d'entendre, et ses amis ne savent pas encore si le référendum sur les Jeux Olympiques aura bien lieu, car il est possible que le gouvernement et la ville retire la candidature de Budapest pour éviter ce scrutin qui risquerait de se transformer en plébiscite contre le gouvernement. En tout cas, les jeunes de Momentum sont déjà passés à autre chose. Ils se préparent à faire le tour du pays pour créer des forums citoyens dans toute la Hongrie.
Momentum ou la reprise en main citoyenne donc du territoire hongrois, correspondant signé Florence Labruyère.
Et comme chaque mercredi, Olivier, direction Bruxelles à présent pour notre plongée dans les arcanes des institutions européennes.
Oui, sujet plutôt technique hein, ce soir, accrochez-vous Mickaël, mais sujet hautement politique qui fait grand bruit dans les couloirs de Bruxelles. Attention, vous êtes prêts? La réforme du mécanisme de comitologie. Bonsoir Johanna Holstein.
Bonsoir.
La comitologie c'est quoi donc, Johanna?
Alors, voilà bien une procédure inaccessible aux profanes et dont la bulle européenne a le secret. Est-ce que cela vous aide si je vous dis que c'est la méthode de validation des actes délégués et d'exécution? Non, sans doute pas. Alors, pour faire simple, disons que c'est l'équivalent des décrets en France.
D'accord. Alors, comment s'organise précisément cette comitologie?
Difficile de faire moins transparent, des experts nationaux, délégués par leur administration en fonction de leur spécialité, se réunissent à Bruxelles derrière des portes closes. Pas évident donc de l'extérieur de savoir qui a voté quoi. De ce fait, les gouvernements, qui se verraient par la suite reprocher la décision collective par leur opposition, peuvent très facilement se retrancher derrière le fameux « c'est la faute à Bruxelles ». Un exemple peut-être, le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché du Roundup, cet herbicide fortement controversé à base de glyphosate, vous vous souvenez certainement, un dossier délicat, impopulaire. La France, pourtant publiquement opposée à ce renouvellement, a préféré tout simplement s'abstenir lors du vote en comité. Et ce manque de courage politique s'est soldé par l'absence de toute décision. Alors selon la règle de la comitologie, il est donc revenu à la Commission européenne de trancher en dernier recours et automatiquement a encaissé la colère des ONG. Elle s'est retrouvée dans cette situation inconfortable à 17 reprises en 2015 et 2016 sur la validation des OGM aussi.
Et donc, dernièrement, ras-le-bol de Jean-Claude Juncker, il en a eu marre que les 28 gouvernements se cachent derrière la Commission.
Oui, et c'est pour cela qu'il propose une réforme du mécanisme de décision européenne. Les États membres se verraient en fait privés du recours à l'abstention, vu l'abus qu'ils en font. Et on ne voterait plus non plus à bulletin secret. Il faudra désormais assumer ses choix publiquement. Ce sera dur pour nombre d'entre eux. Dernière modification, la possibilité de faire remonter le dossier à la table des ministres concernés pour éviter tout blocage dû à l'absence de décision.
Reste à savoir quand même, Johanna, si les États membres accepteront de renoncer à un mécanisme qui les avantage.
Alors vous mettez là le doigt sur le cœur du problème. Le Parlement, qui n'est pas contre, et le Conseil des ministres, qui représente les gouvernements et qui n'est donc pas franchement pour, seront l'un et l'autre appelés à voter le texte. Pas sûr en effet que les capitales acceptent de se tirer une balle dans le pied, ce qui promet une vraie bataille juridique et politique en toute transparence, on l'espère, cette fois-ci.
Une bataille que nous suivrons attentivement. Merci Johanna Holstein en direct de notre bureau de Bruxelles.
Allez Olivier, rien à voir avec la comitologie, mais Europe encore, vous nous emmenez en Grande-Bretagne.
Où un parfum de nostalgie flottera ce soir sur la 37e cérémonie des Brit Awards, un monument de la musique britannique pourrait y être consacré à titre posthume. David Bowie pour son dernier album Black Star, sorti quelques jours avant sa mort, il y a tout juste un an, une année entière d'hommage à Bowie. De cette interprétation de Rebel Rebel par 1000 musiciens l'été dernier dans le stade italien de Cesena. à ce projet de financement participatif lancé hier, projet qui prévoit d'ériger dans son lieu de naissance l'éclair rouge du personnage Aladdin Sane, un monument en acier haut de 3 étages qui nécessite de rassembler 990 000 livres. Il reste 28 jours pour que le quartier de Brixton puisse être frappé par le Memorial Bowl. C'est magnifique à voir.
C'est bien cette version. 1000 musiciens réunis en hommage à Bowie. Olivier Poujade, merci et à demain.
Un jour dans le monde sur France Inter.
Et un jour dans le monde numérique. Bonsoir Julien Baldacchino.
Bonsoir Michael et bonsoir à tous.
Alors on démarre par une question, Julien. Les robots vont-ils devoir payer des impôts? Question qui agite cette semaine la planète numérique.
Et c'est une position défendue par Bill Gates. L'ancien patron de Microsoft avait défendu cette idée de taxer les robots dans une interview pour le site américain spécialisé Quartz.
À l'heure actuelle, si un humain produit une richesse de 50 000 dollars dans une usine, ce revenu est taxé. Si on met un robot à la place pour faire la même chose, on peut envisager de taxer le robot au même niveau.
Alors l'idée qui se trouve derrière cette proposition, c'est qu'il y a des tâches dans lesquelles les robots ne pourront jamais remplacer l'humain, comme les soins aux personnes âgées par exemple, ou l'enseignement des enfants, et qu'il vaut mieux se concentrer sur ces métiers-là tout en profitant de la libération de la main-d'œuvre proposée par les robots et en taxant leur utilisation. Et si cette idée vous rappelle quelque chose, eh bien c'est parce qu'elle est aussi évoquée ici en France dans la campagne présidentielle. C'est l'une des mesures proposées par Benoît Hamon pour financer le revenu universel.
Et aux États-Unis, la façon dont Donald Trump gère son image numérique fait encore et toujours parler.
Oui, après ses tweets, après son téléphone non sécurisé, cette fois, ce sont ses noms de domaine qui font parler. Les noms de domaine, ce sont les adresses web qui permettent d'accéder au site. Et quand un nom de domaine est disponible, vous pouvez l'acheter soit pour y héberger un site web, soit simplement pour le réserver et faire en sorte que personne d'autre ne l'utilise. Et dans cette discipline, Donald Trump excelle. En 20 ans, selon CNN, il a acheté 3643 noms de domaine différents. Le premier s'était assez naturellement donaldjtrump.com en 1997. Pour le reste, c'est assez révélateur selon la chaîne américaine. Par exemple, lorsqu'il crée le Trump Network, un réseau de vente assez controversé, il achète aussi le nom de domaine trumpnetworkfraud.com. Et c'est ainsi qu'on découvre ensuite que dès 2012, il dépose des noms de domaines à consonance politique, voteagainsttrump.com, voter contre Trump, ou encore trumpmustgo.com, ou même, accrochez-vous, imbeingsuedbythedonald.com, ce qui en français veut dire « je suis poursuivi en justice par le Donald ». .com. En revanche, il n'avait pas pensé à réserver fakenews.com. Résultat, selon CNN, toujours un investisseur a déjà mis la main dessus et compte bien le revendre à prix d'or.
Et CNN, justement, la chaîne d'info américaine, qui a pas mal dormi au Venezuela, Julien.
Oui, mercredi dernier, les téléspectateurs du Venezuela ont eu droit à une interruption brutale des programmes de CNN. La version espagnole de la chaîne d'info a été suspendue par la Commission nationale des télécommunications après la diffusion d'un reportage sur des soupçons de vente de passeports vénézuéliens par l'ambassade du pays en Irak. Reportage accusé d'opérations de propagande de guerre basée sur un mensonge par la ministre des Affaires étrangères, et même le président Nicolas Maduro a réagi.
Il y a des médias comme CNN qui ont essayé de vous manipuler. On ne peut pas manipuler. CNN ne doit pas venir mettre son nez dans les affaires du Venezuela. CNN hors du Venezuela. Dehors!
Résultat, CNN en espagnol coupé de très nombreux appels à lever ce que beaucoup qualifient d'acte de censure. Heureusement, il y a Internet, alors évidemment l'accès au site de CNN a été lui aussi coupé, mais la chaîne est revenue en offrant la diffusion gratuite de ses programmes sur YouTube. Et cette fois, à condition de fermer tout YouTube, le gouvernement n'y pourra pas grand-chose.
De fait, et pour finir, vous nous emmenez en Asie, où deux étranges drones ont fait leur apparition cette semaine.
Deux drones qui n'ont rien à voir entre eux, mais le hasard des dates fait qu'on les a vus poindre sur le web à peu près au même moment. C'est le site Mashable qui les a repérés, avec d'un côté en Chine un drone amélioré par une ville avec un lance-flammes, rien que ça, pour nettoyer les câbles à haute tension. Et puis de l'autre côté au Japon, dans un genre totalement différent, un drone en forme de chien volant. Deux objets volants pas vraiment identifiés à découvrir en vidéo sur franceinter.fr.
Évidemment, Julien Baldacchino, merci beaucoup. Dans moins de deux minutes, le grand Arnaud Le Parmentier du journal Le Monde. Mais pour l'instant, allez, Elvis Presley.
Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do, that's all right. That's all right. That's all right, mama, anyway, do. Well, mama, she done told me, papa done told me, too. Son, that gal you fooling with, she ain't no good to you. But that's all right, that's all right. That's all right, mama, anyway, do.
That's all right, the king.
France Inter, le 18-20, un jour dans le monde.
Et à 18h55, l'heure de l'édito. Bonsoir Arnaud Le Parmentier.
Bonsoir Michael.
Quotidien Le Monde. Et ce soir Arnaud, on parle politique et info bidon.
Oui, nous sommes sous l'emprise de la fake news, l'information bidon. La dernière en date, c'était l'attentat qui aurait frappé vendredi dernier la Suède, selon le monde désenchanté de Donald Trump. Alors heureusement, les tweets sarcastiques venus de Stockholm nous ont rassurés. Jamais il n'y eut d'attentat en Suède. Et en France aussi, nous sommes protégés des fake news par les hardis fact-checkers, ces vérificateurs des faits impitoyables. Hélas, nous sommes victimes d'un mal encore plus insidieux, les fake truths, les fausses vérités ou vraies croyances. Elles sont inexactes, mais résistent à l'argumentation tant elles sont ancrées dans la vie collective. Me voici donc parti sur toutes les ondes en croisade contre ces fake truths. Et la plus terrible d'entre elles, Michael, s'appelle austérité. Oui, je vous vois frémir. Les Français vivraient sous l'empire de l'austérité depuis Maastricht. Eh bien, un petit examen des déficits publics montre qu'il n'en est rien. La France enregistre chaque année un déficit supérieur à 3% de son PIB. Produit intérieur brut. Depuis 2008, en réalité, elle vit dans le laxisme permanent. Alors, peu importe mon opinion, ce qui est intéressant, c'est la division de l'Europe. Les Français sont tous persuadés, et de bonne foi, qu'ils vivent dans l'austérité. Les Allemands pensent exactement le contraire. Nous arrivons donc à l'instant culturel de la chronique. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. La maxime de Blaise Pascal perdure, le Rhin ayant simplement remplacé les Pyrénées.
Et donc, selon vous, la société française serait structurée par ces fausses croyances?
Oui, parce que nous vivons dans un ailleurs qui nous empêche d'avoir un regard lucide sur nos problèmes. À vous écouter, nous vivons dans une société libérale, forcément ultra-libérale. Bienvenue en réalité dans le pays le plus socialisé du monde développé, avec 57% de dépenses publiques et 45% de prélèvements obligatoires. On peut trouver aussi les fake citations, comme celle de Mitterrand en 1993. Dans la lutte contre le chômage, on a tout essayé. Oui, tout sauf ce qui marche.
comme l'expliquait dès 1994 Denis Oliven dans un rapport sur la préférence française pour le chômage. On a aussi les fausses icônes, à savoir les pauvres retraités, comme si nous aignions encore en 1945. En réalité, les statistiques le montrent, les retraités français sont proportionnellement parmi les mieux lotis du monde, y compris les veuves. Mais cette croyance aggrave l'inégalité générationnelle entre les jeunes. Enfin, on trouve des martyrs, des fake truths. Nicolas Bavrez, qui dénonça à juste titre dès 2003, citation, « La France qui tombe » dans son livre, l'essai fut disqualifié pour déclinisme aggravé, jusqu'à ce que Louis Gallois, patron de gauche, dresse le même constat, mais c'était 9 ans plus tard.
Ouais, comme par hasard, Arnaud, vous n'avez trouvé que des fake truths qui défendent vos conceptions libérales. Hein.
Non, pas du tout. Il y en a qui vont contre l'ordre établi conservateur. J'ai bien cherché. Et sur le nucléaire, par exemple, la légende veut que le coût du démantèlement des centrales soit sous contrôle et financé. On commence à ouvrir les yeux grâce aux Verts et aux excellents rapports parlementaires qu'ils font. Les grands patrons, eux aussi, ont inventé une fake news. C'est la légende de l'existence d'un marché mondial des talents de haut niveau pour justifier leur salaire mirobolant, même s'ils sont bien peu performants. En réalité, ce marché n'existe pas. Il est confiné au CAC 40 et quelques entreprises italiennes parfois. En rajoutons-y un dernier exemple, le dévoiement du principe de précaution. Il instrumentalise quelques cas pour semer le doute sur les vaccins qui furent et qui sont un immense progrès de l'histoire de l'humanité. Le fake truth en France, vous voyez, est très difficile à débusquer. Il prend le chemin de la ruse pour s'imposer, sachons le démasquer.
Arnaud Le Parmentier, c'est pas facile à dire, du journal Le Monde. Merci. Dans une vingtaine de minutes, le téléphone sonne sur les médicaments génériques. Bah là aussi, tiens, on pourrait parler de fake truth et ce doute persistant qui les entoure, ils seraient moins efficaces, moins bien supportés et surtout moins sûrs. Alors vrai ou faux, on en parle ce soir. Vos questions, vos commentaires dès maintenant au 01 45 24 7000 sur internet franceinter.fr et Twitter hashtag Telson. Et dans une poignée de secondes, le journal de 19h.